Voir Afrique. Les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonsoir, il est 14h ici à Washington, 19h en temps universel. La présence militaire va être renforcée dans le centre du Mali et un programme de désarmement des milices d'autodéfense communautaire et des combattants djihadistes va y être lancé dès ce lundi. Engagement pris par le Premier ministre Soumelou Boubey Maïga lors de sa deuxième visite dans la région en l'espace de 2 mois. Les présidents français et tchadien Emmanuel Macron et Idriss Déby se sont déclarés très inquiets par l'activité du groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Sur Boko Haram, nous sommes très inquiets, a déclaré M. Macron, venu réveillonner avec les soldats français de la force Barkhane à N'Djamena. En Somalie, le double attentat de samedi perpétré par les islamistes Shebab à proximité du palais présidentiel de Mogadiscio a fait 20 morts, indique la police, revoyant à la hausse un bilan précédent de 7 morts. Des civils et des membres des forces de sécurité font partie des victimes. L'armée burundaise s'est dit opposée au rapatriement d'ici au 28 février de 1000 de ses soldats déployés en Somalie pour l'AMISOM, la force de l'Union africaine dans ce pays. Et l'armée donc demande au gouvernement burundais de plaider à sa cause auprès de l'UA. Selon un communiqué du porte-parole de l'armée burundaise, l'armée conteste la décision de la commission de l'UA de ne rapatrier que des soldats burundais au lieu de rapatrier des soldats de chaque pays contributeur au prorata du nombre de soldats déployés. En Égypte, 14 djihadistes présumés ont été tués dans des affrontements avec les forces de sécurité dans le nord Sinaï, où le pays combat une branche locale du groupe État islamique. Depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, les autorités égyptiennes affrontent des groupes extrémistes dans cette péninsule bouclée par l'armée. Au Soudan, manifestation ce dimanche à Oum Rawaba, dans le centre du pays, selon des témoins. Mais le calme prédomine à Khartoum, la capitale, au cinquième jour d'une vague de protestations contre la hausse du prix du pain. La récente décision du gouvernement soudanais d'augmenter le prix du pain de 1 à 3 livres soudanaises suscite depuis mercredi des manifestations qui ont entraîné au moins 8 morts lors de heurts avec les forces anti-émeutes, selon des responsables et des témoins. Le principal dirigeant d'opposition, Sadek al-Mahdi, a dénoncé samedi la répression armée et évoque, lui, un bilan supérieur, un bilan de 22 morts. L'ONG allemande Sea-Watch, qui a secouru samedi 33 migrants au large de la Libye, exhorte les États européens à trouver une solution rapide pour leur permettre de débarquer avant que le temps ne se gâte à Noël. Les migrants se trouvaient sur une embarcation de fortune dans les eaux internationales quand ils ont été secourus par le Sea-Watch 3 qui bat pavillon néerlandais. Ils viennent du Nigeria, de Libye et de Côte d'Ivoire et parmi eux se trouvent 6 enfants et 4 femmes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Plus de 220 personnes ont été tuées et plusieurs centaines de blessés lorsqu'un tsunami provoqué par une éruption volcanique a déferlé soudainement sur les plages du détroit indonésien de la Sonde, annoncent les autorités en disant craindre un bilan encore plus lourd. Des centaines de bâtiments ont été emportés par la vague qui a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java aux alentours de 21h30 locales samedi. La fermeture partielle des administrations fédérales américaines pourrait durer jusqu'en janvier, foi du chef du budget à la Maison-Blanche, Mick Mulvaney. L'influent hebdomadaire allemand Der Spiegel va porter plainte contre un de ses anciens journalistes, le soupçonnant notamment d'avoir détourné des dons en faveur d'orphelins syriens, mis à l'honneur dans l'un de ses articles dont la crédibilité elle-même est en cause. Et puis un mot d'espoir pour dire qu'en phase retour de la Coupe CAF, le Salitas s'est qualifié hier à Ouagadougou face à Al Masri d'Égypte par le score de 0-0. C'est qu'à l'aller, Salitas avait gagné par 2-0 en Égypte. C'est tout donc pour ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur voafrique.com. Le prochain bulletin, c'est dans moins d'une heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. C'est la fin.
écoutez, c'est le dialogue des religions qui commence. Eric Vanirakiza avec vous. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la famille. Le pape François a écrit une préface à un recueil de textes de son prédécesseur Benoît XVI sur la politique. Dans ce texte, révélé le 6 mai par le journal italien La Stampa, il affirmait qu'il existe une limite à l'obéissance à l'État en matière familiale. Et pour le successeur de Pierre, il existe aujourd'hui une idéologie qui refuse tout amour, sauf celui de son propre ego. Selon lui, cela entraîne une colonisation des consciences par une idéologie qui nie la différence homme-femme, certitude de fond et son rôle dans la transmission de la vie. Sans les nommer, le pape désigne ainsi la théorie du genre et l'avortement, basée sur la grande négation que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ainsi, il faut établir l'obéissance de l'homme à Dieu comme limite de l'obéissance à l'État, ce qui aujourd'hui signifie défendre la famille. Cette idéologie, poursuit-il, aboutit à la production planifiée et rationnelle de personnes qui considèrent licite d'éliminer ce qui n'est plus considéré comme créé, donné, conçu et généré, mais fabriqué par nous seuls. Ces apparents droits de l'homme, estime le souverain pontife, conduisent in fine à l'autodestruction de l'homme. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, avait déjà étudier ce problème avec l'idéologie marxiste, analyse le pape argentin. Il avait ainsi mis en évidence que l'authentique différence entre le marxisme et le christianisme se situe dans la différence abyssale quant à la rédemption. Alors que l'idéologie communiste voit celle-ci comme la libération de toute dépendance, le christianisme la voit comme complète dépendance à l'amour qui constitue la vraie liberté. Nous avons dans ce studio des invités qui vont essayer de discuter la pensée du pape. Je vais commencer par ma droite, ma collègue Kadiatou Traoré, qui est musulmane, qui va nous parler de la place que la religion musulmane accorde de la famille. Mm-hmm. Merci Kadiatou d'être là.
Merci encore une fois Eric de me donner l'opportunité de venir parler de quelque chose d'assez important dans la religion musulmane.
Voilà, priorité dame, même quand on joue au jeu de dame. C'est ce qu'on dit. J'aurais dû commencer par ma gauche, mais je confesse déjà. C'est le père Steve qui est avec nous.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous.
Et merci d'être avec nous.
Tout le plaisir est pour moi.
Pour me faire pardonner, je vais vous accorder la parole en premier. Vous avez reçu je dirais pas une directive, je ne sais pas, mais vous allez peut-être nous éclairer davantage. La pensée du pape, comment vous la transmettez?
Non, comment je la reçois d'abord, parce que c'est très important de replacer les propos du pape François dans leur contexte, qui est actuellement, en fait, d'après l'Église, mais nous nous accordons largement avec les grandes religions, que en ce moment la famille, ce qu'on appelle la famille, subit des mutations, subit des transformations, donc elle est menacée dans ses fondements traditionnels, et donc du coup il faut la protéger. Et dans ce cas, ce que vient dire le pape François, ce qu'il appelle les colonisations idéologiques, c'est de faire en sorte que tout ce qui constitue le fondement traditionnel de la famille, c'est-à-dire la famille comme un homme et une femme, donc un père et une mère, éventuellement avec des enfants, lorsqu'ils peuvent les avoir, parce que c'est pas toujours évident, on suppose, alors la famille idéale c'est cela, et bien tout cela est en train d'être remis en question par non seulement des lois, mais des modes de pensée, des modes, enfin on y reviendra en détail. Alors c'est cette famille là qu'il faut protéger, parfois qu'il faut protéger d'elle-même, parce que nous n'avons pas tous la même conception de la famille. Maintenant on parle des familles, des familles monoparentales, des familles homoparentales. On a le divorce est devenu monnaie courante un peu partout, et ça gagne l'Afrique, puisque nous sommes essentiellement en train de nous adresser à des auditeurs du continent.
Mais c'est aussi un droit.
C'est ce que oui c'est bien sûr c'est un droit du point de vue légal bien entendu. Mais alors tout cela fait que l'idée qu'on a de la famille risque d'être effritée. Il y a un certain relativisme et sur ce plan-là, bah, le pape François ne fait que rappeler ce que du moins le christianisme, on va écouter ce qu'on dit l'islam tout à l'heure, du moins ce que le christianisme a toujours professé et tenant cela comme étant révélé divinement puisque faisant partie de la tradition des écritures saintes, etc.
Voilà. Voilà. Cadiato, le père Steve.
J'avoue que
l'avocat du pape.
Non, mais après
comment vous recevez justement cette...
Bon, moi, la manière dont moi je reçois là, comme il a si bien dit, je le rejoins sur un certain nombre de points, mais ce que moi je voulais vraiment relater, c'est que quand on regarde un tout petit peu ce que dans l'analyse du pape, il y a même l'existence de Dieu qui est en train de se mettre en question. Est-ce que les gens... Parce que les familles se font par elles-mêmes. Le prêtre vient de le dire tout de suite. Et ça veut dire quoi? C'est la conception d'enfants. Depuis des bouteilles...
Après, une union.
Absolument. Quand tu veux, si tu veux pas, tu peux avoir un enfant comme ça. Or, union et tout ça, c'est fait par les hommes. Et même, ça met en cause... Ça met en cause l'existence de Dieu. Est-ce que... C'est une question que je vais encore renvoyer à mon cher collègue, mon frère, évêque. Qu'est-ce qui peut être la solution à cela à l'avenir? Avec cette révolution idéologique et contemporaine qui gagne la formation des familles dans une certaine liberté, comment faire pour maintenir la spiritualité de la chose au point de vue de différentes religions?
Il répondra à la question tout à l'heure, mais comment vous concevez la famille au niveau de la religion musulmane?
La famille, elle est très importante au vu de la religion musulmane. Tout commence par la famille. C'est-à-dire que c'est la famille qui constitue la communauté musulmane depuis la nuit des temps. Et c'était traditionnel, mais les religions sont venues la trouver comme ça. Et elle est comme ça. Et c'est à l'intérieur de cette famille-là que les choses se font. Et puis ça gagne la communauté. Donc, au vu de la religion musulmane, la charia même, la conception au vu des lois musulmanes de la famille est très importante.
Alors, au niveau du christianisme,
nous avons déjà des auditeurs en ligne.
Voilà. Au niveau du christianisme, la famille elle est sacrée parce que c'est la cellule nucléaire. C'est ce qui commence, c'est ce qui constitue la base. Mais elle rejoint l'idée que l'on se fait également de
Dieu. Le fondement de la société.
Le fondement de la société, mais le fondement de la dignité. La dignité de la personne humaine commence par la famille. C'est-à-dire que dans la famille, on ne reçoit pas seulement les interdits, les lois, mais on reçoit également tout ce qui constitue les valeurs humaines, tout ce qui constitue la fraternité, le pardon, le respect, tout s'apprend et se reçoit dans la famille. Et on ne choisit pas sa famille, donc la famille devient un don qui nous forge en fait. On devient homme ou femme, on devient humain parce que nous avons reçu quelque chose de la famille.
Un don à protéger.
On va protéger, bien sûr, parce que protéger la famille revient en fin de compte à se protéger soi-même, à défendre sa propre dignité. Voilà.
Voilà, on va revenir vers ici. Nous avons des auditeurs en ligne qui attendent. Nous avons Hassan Omar. Bonsoir Hassan.
Bonsoir.
Voilà, vous avez suivi notre discussion ici, mais déjà vous dites que la famille est sacrée dans la religion. Comment?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Dans la religion, moi, je suis de la religion musulmane et la famille, elle est très importante. C'est même le socle de la vie parce qu'il faut savoir que c'est l'éducation, la première éducation que vous allez avoir, c'est dans la famille avant d'aller à l'école avant l'influence environnementale. C'est la famille qui vous construit. Et souvent, on regarde la personne ou l'enfant et de ce comportement, on voit la situation familiale, on voit le parent, comment les élèves ou l'éduquent l'enfant. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a une transformation cruciale et totale de la famille. Nous avons des familles qui sont souvent, on dit, homosexuelles ou voilà, qui sont du même genre. Et ça, ça, ça détruit complètement l'humanité. Il faut le dire, parce que l'humanité, c'est quoi? L'humanité, c'est un mâle, c'est, je peux dire, c'est un homme et une femme qui construit une vie et qui fait un noyau de l'amour et qui peuple le monde. Mais si on ne trouve pas ça,
oui. Vous approuvez à l'approche du pape. Vous accordez avec le pape.
Oui, parce que les religions, religions monothéistes, ils sont souvent des mêmes accords, ils font des mêmes accords.
Absolument, sur la famille, ça c'est un point largement partagé, avec quelques différences bien sûr, mais oui.
C'est un point commun, c'est le noyau de la famille.
Hassan,
oui.
Avez-vous une question à poser à l'un de nos deux invités?
Oui, moi, j'aimerais poser au pape une question qui me semble très importante.
Ah, non, le pape, il n'est pas ici, mais
l'évêque.
Je suis avec le père,
c'est
Steve.
C'est l'évêque, oui.
D'accord, allez-y.
Le pape n'est pas présent, il est au fatigant. Ouais.
Voilà.
Oui, donc, oui, j'aimerais poser une question. La question, c'est quel est aujourd'hui le programme ou les principes qui sont mis en place pour protéger la famille, la famille traditionnelle, dont nous avons toujours eu connaissance.
Voilà, Père Steve, il ne faut pas rejeter de devenir pape, peut-être que...
qu'il plaise à Dieu de faire ce qu'il voudra. Mais pour l'instant, alors je vais répondre à cette question si vous le permettez. En fait, au niveau, par exemple, des différentes églises, on essaie de travailler ensemble pour des programmes d'éducation familiale. Et je vous fais savoir, par exemple, au niveau de l'église catholique dont je fais partie, c'est que ce mois d'août, comme tous les trois ans, il y a ce qu'on appelle un congrès mondial des familles. Le dernier congrès, d'ailleurs, s'est tenu à Philadelphie, non loin de Washington, il y a trois ans.
Et le pape était là.
Et le pape était là. Alors, les congrès des familles, c'est une idée du pape Jean-Paul II qui a essayé de renforcer les familles. Qu'est-ce qu'on y fait? On invite des familles. Ce sont les familles qui, elles-mêmes, sont protagonistes. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui viennent témoigner, il y a des conférenciers qui, pour la plupart, sont laïcs. Ils donnent leur témoignage, les familles se rencontrent et ils réfléchissent ensemble sur leurs défis. Les femmes prennent la parole pour ce qui concerne les défis des femmes. Les jeunes ont l'occasion on les écoute également. Il y a eu également, alors l'année dernière, ce qu'on appelle le synode sur la famille, c'est-à-dire les grandes assemblées, il y en a eu deux en fait, en 2014 et en 2015, deux synodes sur la famille, c'est-à-dire des grandes assemblées d'évêques où on a essayé de réfléchir sur la famille, et je vous inviterai à lire, si vous voulez vraiment approfondir par vous-même, la belle exhortation apostolique du pape François qui s'appelle Amoris Laetitia, donc la joie de l'amour, où il relève tous les grands défi maintenant du 21e siècle, parce qu'on avait besoin d'un adjournement, c'est-à-dire une sorte de mise à jour, parce qu'en 60 ans, depuis la révolution sexuelle de la fin des années 60, tellement de choses ont changé, et ça nous affecte. Mais vraiment jusque dans la case du village, quoi. Voilà, je sais pas si...
Tout à fait, absolument. Moi, je vois la chose de cette manière aussi.
Est-ce que vous faites des rassemblements aussi au niveau de l'islam?
Absolument, oui. Il y a beaucoup de rassemblements dans les mosquées, et de plus en plus. Il y a aussi...
Mais c'est pareil. Il y a toujours un mur ou...
Non, pas autant qu'il y a un mur. Bon, enfin, quand tu pars dans la mosquée, les hommes prient
de leur côté. Part,
et les femmes et les enfants sont de l'autre côté. Mais quand il y a des rassemblements comme ça, je pense que les gens se rejoignent. Il y a des centres ici, dans le Maryland, dans les centres islamiques, dans lesquels il faut ma fille, j'ai une de mes filles, la dernière, et qui est très 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 active dans la communauté musulmane, et elle assiste à beaucoup de choses au sein de la mosquée. C'est pareil, comme chez les chrétiens, et comme chez tout le monde ici. Vous voyez un peu, c'est de tradition aussi aux États-Unis, et que les religions s'organisent autour des lieux de culte, et en amenant les familles vraiment à partir
les religions deviennent aussi des centres sociaux, c'est pas
absolument.
Simplement que
absolument.
Pour la doctrine, c'est aussi
absolument, ouais. Absolument.
Voilà. Merci Hassan pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Restez à l'écoute. Il y a Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui dit: une famille qui craint Dieu obéira à l'État et aux autorités. On obéit à Dieu, on obéit aussi à l'État. Jésus a dit: à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. on respecte Dieu et en même temps on se soumet aux lois du pays et aux autorités. Beaucoup de gens qui n'ont pas reçu l'affection familiale grandissent ou ne rendent pas l'affection à leur prochain. C'est le point de vue de Alphonse Mbouaki. Il y a Valérie Capita qui dit la place que notre religion accorde à la famille est respectueusement à la hauteur divine. La famille est la première cellule de la société. Obéissance en premier lieu, essentiellement à Dieu, et ensuite le respect aux autorités morales. Un commentaire sur...
Alors, par rapport à la plupart des religions, bien sûr, s'accordent sur le fait qu'il faut protéger la famille, mais ce qui revient dans les commentaires, c'est l'obéissance par rapport aux lois ou aux décisions de l'État. En fait, il y a, comme a dit le pape, une certaine limite par rapport à ce que la conscience de quelqu'un peut lui permettre. C'est-à-dire un grand homme de ce pays, Martin Luther King, pour ne pas le nommer, a dit que voilà, on peut obéir à l'État sauf si une loi est injuste. Alors c'est le mot clé, injuste par rapport à quoi ? C'est-à-dire que chaque être humain a une conscience, y compris religieuse, et on ne peut pas objectivement forcer quelqu'un. Je vous donne un exemple. Pour être très concret, parce qu'il faut être terre à terre, on est en train de parler à des auditeurs qui mènent une vie de tous les jours très concrète.
Absolument.
Par exemple, si une loi vient obliger, je sais pas moi, un médecin à pratiquer une interruption volontaire de grossesse appelée avortement, ici la loi permet l'objection de conscience. C'est-à-dire, le médecin va dire, moi, conformément à mes convictions, je ne suis pas en mesure de faire ce que la loi m'impose pourtant de faire. Ça, c'est un petit peu la limite, la petite frontière très très fine, extrêmement difficile, entre ma conscience et mon devoir. Voilà.
Nous avons deux auditeurs en ligne. Kadiatou, vous allez avoir la parole tout à l'heure. Il y a Brahima Doumbia. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
Très rapidement. La considération que vous donnez à la famille dans votre religion.
Bon, la famille quand même a un rôle très très important, je dirais, dans la religion que je pratique, la religion musulmane. Et j'aimerais aussi répondre un point, puisque le monsieur vient de dire que les enfants prient avec les femmes. Je pense que dans la plupart des mosquées dans lesquelles nous prions ici quand même, les enfants et les garçons que surtout prient avec leurs parents et les filles prient avec leurs mamans. C'est le cas aussi, je pense, dans plusieurs pays aussi. Et il s'agit quand même cette journée qui est initiée aussi par le pape, puisque il faut reconnaître que la famille, c'est avant tout un ensemble. Il ne faut pas écarter un tel ou un tel. Nous sommes unis et nous devons quand même faire en sorte que nous puissions vivre ensemble et dans la communion.
Merci Brahima. Vous n'avez pas une question à poser? Ah, Brahima est déjà parti. Bon, nous avons Tierno. Ok, vous prenez la parole très bientôt. Diallo Tierno, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à vos invités et à l'ensemble des auditeurs.
Vous avez la parole, vous pouvez également poser des questions.
Ok, merci. Mon opinion là-dessus, moi je pense que la famille c'est quelque chose qui est sacré, parce que les religions sont venues trouver les familles composées en place. Aussi que les prophètes tous sont issus des grandes familles, donc il n'y a pas quelque chose de divergent. Tout le monde est unanime là-dessus que les familles, c'est quelque chose qui est sacré. Mais c'est la manière d'interpréter de certains versets ou bien, comment dirais-je, de certains articles qui composent dedans, c'est ce qui envoie quelques discussions à la base. Mais tout le monde est unanime que les familles, c'est quelque chose qui est sacré, parce que la religion n'aurait pas pu exister si les familles n'étaient pas en place. Donc les religions sont venues trouver les familles en place. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à discuter là-dessus. Merci.
Vous avez une question?
Non, j'écoute vos invités là, je suis très ravi.
Merci, merci Tierno et bonne soirée chez vous à Conakry.
Bon, je voulais quand même, on ne peut pas parler de cela sans pour autant donner, voilà, donner à, comme la définition de la famille, les relations entre les gens de la famille. Parce que dans la religion musulmane, le prophète même est amené à dire que, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui aime vivre dans l'aisance et retarder l'heure de sa mort maintient le lien de parenté. Et quand on parle de parenté, il y a une définition, ça sort du cadre du père et de la mère, et il y a les oncles, les tantes et tout le monde. Et dans la religion musulmane, on donne beaucoup de sens à cela. Une famille et la vie. Quand on parle de famille, on ne se tient pas seulement à la famille, au père, à la mère. Il y a les cousins, les tantes, les oncles, et tout le monde est considéré. C'est cette considération qui constitue aussi, tu vois, la mise en place ou la construction même de la communauté à la base. Et les gens peuvent bien se côtoyer et voilà quoi.
On peut même épouser plusieurs femmes, c'est aussi...
La polygamie aussi. La polygamie aussi qui vient, quelque part, on le retrouve dans les lois musulmane, qui est la charia et qui est autorisée.
Pour multiplier la famille, c'est ça?
Pour multiplier la famille et aussi, s'il y a des problèmes aussi, c'est vrai que c'est difficile pour nous, moi, en tant que femme, naturellement, je me dis que c'est un peu difficile pour
femme,
pour
femme moi. Indépendante, voilà. Femme autonome.
Voilà, mais quand même, elle a aussi ses avantages. On ne peut pas parler de quelque chose en disant seulement que la chose est négative. Elle a été créée et sur les constats, et elle a été mise dans les lois de la famille, de la parenté, et sur des faits bien précis.
Alors, c'est la grande différence, si vous voulez. Voilà. Je dois placer un mot. Donc, cette polygamie qui est formalisée, mais il y a une autre polygamie qui est cachée, qui ne se vit pas.
Laquelle? Je veux que tu me le dises.
De toute façon, on voit.
Mais ça, c'est peut-être traditionnel. Ça a un caractère traditionnel.
Beaucoup d'enfants qui sont en mariage, quoi.
Bon, ça c'est traditionnel. C'est purement. Ça sort du cadre de la religion.
Alors, oui, il y a deux commentaires de nos auditeurs. C'est Osana qui dit je pense que le pape a parfaitement raison, parce que la famille constitue le bonheur de l'homme, donc on doit défendre avec force son bien-être et ses intérêts. Il y a plus meilleur de ce monde que d'avoir une famille. Voilà, c'est ce que dit Osana. Il y a aussi El Hawa qui dit les propos du pape peuvent être analysés sous plusieurs angles. Si l'homme doit utiliser Dieu pour limiter son obéissance à l'État, cela voudrait dire que la famille est au-dessus de l'État. Bref, c'est homme de Dieu, philosophe, sur des mots pour plaire.
Alors, je ne crois pas que ça soit pour plaire, parce que, alors, il y a ce qu'on appelle, il y a une dimension très importante de la mission de l'Église, qu'on appelle la mission prophétique de l'Église. C'est-à-dire que, et là, en général, les religions font tout ça, c'est que la religion a aussi la mission d'annoncer et de dénoncer. Pour faire renoncer. Quand les choses ne vont pas sur le plan sociétal, eh bien.
C'est dans votre rôle.
Exactement, c'est vraiment, ça fait partie de l'essence même de la mission de l'Église. Parce que l'Église n'est pas là simplement pour annoncer l'Évangile, et ça c'est bien, mais il faut qu'on entre dans le concret de la vie. Et dans le concret de la vie, il y a des difficultés. Et donc, quand il n'est pas le premier à le faire. Alors, en général, on caricature, et c'est bien dommage, on caricature le pape François, du moins on le limite aux réformes qu'il entreprend, mais quand il donne du poing sur la table, les gens ont tendance à dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà.
Oui, si vous lisez même la Bible, c'est la transmission de la vie quotidienne. Le Coran, je ne le connais pas, peut-être c'est la même chose.
Si, pourquoi pas.
Toutes les histoires humaines, je pense aussi.
Voilà.
Alors, en deux, trois mots, Kadiatou, quels sont les dangers qui menacent la famille aujourd'hui?
Le danger qui menace la famille, c'est que les gens sont en train de sortir en dehors même de cette constitution familiale, et qui était des valeurs et des repères de la vie humaine avant. Et ça, c'est une menace pour l'humanité.
Difficile en 30 secondes de dire les principaux défis qui menacent la famille, mais simplement, je veux dire que une famille qui vit est une famille qui vibre, une famille qui sait aimer, qui sait pardonner, est une famille qui est véritablement objet d'amour et qui donne et qui reçoit de l'amour.
Voilà. Merci Père Tif pour votre contribution dans ce dialogue des religieux. Merci à Kadiatou Traoré, Eric Mandela-Kiza. On vous retrouve à la prochaine dans le dialogue des religieux. À très bientôt.